Bienvenue dans l'émission des mots d'ici, des mots d'ailleurs, patchwork de mots, de sons et de notes. Des mots d'ici, des mots d'ailleurs, tu as toujours le choix de garder les yeux ouverts ou rester les volets fermés. Des mots d'ici, des mots d'ailleurs. Balcon où défiler le monde, quand il faut rentrer sans arcade dans la gueule froide de la journée grignoteuse devant les centaines de boîtes qu'il faut remplir précipitamment, quand il faut quitter le grand vide admirable où l'on avait séjour. Tristesse du réveil, il s'agit de redescendre, de s'humilier. L'homme retrouve sa défaite, le quotidien. Ayant perdu les témoins de sa splendeur, il ne sait que dire. Il peut même passer par un imbécile, un médiocre, un homme de rien. Cependant qu'il y a peu d'instants encore, il se trouvait entre les majestés, lui-même sur un trône, parmi les souverains masqués, et qu'en grande pompe le suivaient ses gens. Tandis que s'élevant toujours plus haut encore, il abordait à la plateforme suprême où, seul, le son des grandes trompettes de la victoire pouvait le rejoindre, l'insoumis. C'est fini, en vain, le pauvre remonta d'un élan irrésistible le cours de son destin, en vain il s'éleva. Il lui faut en un instant, et incertain, s'il la reverra jamais quitter sa vraie famille, les célestes siens, pour revenir parmi les étrangers qui se disent ses proches et ne le connaissent pas. Il regarde autour de lui, il se sent accablé. La journée le reprend comme un train omniprésent. Prend sa charge de journalier. Allons, en route! Et il lui faut s'éloigner. Cependant, il se demande comment il pourrait rentrer dans le paradis perdu, et qu'importe que ce soit parfois un enfer. Il médite l'évasion, car les mous sont les durs, ne se laisse ni vaincre, ni convaincre, et se réforme entier et agrandi sous la botte. Tous les moyens lui sont bons. Pas besoin d'opium, tout est drogue à qui choisit pour y vivre l'autre côté. Attaquant son cœur à grands coups de café ou même simplement de fatigue, ou même simplement d'imagination ou du fluide intense de son désir, il décolle. Il regarde ensuite le monde, des objets immobiles, mais qui commencent à chanter. À tenir la note. Les immeubles des boulevards, comme appelés à devenir d'immenses vaisseaux, commencent à se caréner. D'autres voûtes, entre les voûtes, des monuments se mettent à osciller lentement. Des plafonds descendent, continuellement des plafonds, et sans remonter jamais. des visages émanés de son propre visage, partout le regardent. Ses tempes chantent haut en ténor, cependant, que les agrès intérieurs se raidissent. Dans la tempête, il entend le monde, l'insoumis. Il entend le monde comme il sonne vraiment. Oh, qu'il résonne étrangement. Il le voit aussi comme il est, jaune, essentiellement jaune, et mêlé d'un peu de boue et d'ocre. Il est dans la trajectoire et la vie prend un tout autre sens. Chacun est après une autre chandelle. C'est la poursuite vertigineuse et il n'est pas de pont dans un tourbillon. Il est dans la trajectoire et la vie prend un tout autre sens. Comme des bulles, des horizons toujours nouveaux apparaissent, croissent, se dilatent, crèvent, réapparaissent, s'étirent, se dilatent, et encore, progressivement et rapidement formés, des cuirasses de frissons, maintenant l'isolent, comme son idée profonde isole le somnambule et le retire de la nuit, de ses pièges et de son grave défaut de lumière, dans le calme parfait qui précède les apparitions, son être galvanisé attend la révélation. De toute façon, le versant est bientôt dépassé, car il y a toujours un versant et il retombe. Ce redoublement de fatigue, quoi, aux premiers abords décevants, lui est une nouvelle occasion de lâcher pied et déserter l'odieux compartimentage du monde, capitaine à la débâcle. Il détruit les derniers échafaudages, il nivelle tout dans la cendre, il accomplit la ruine. C'est ainsi qu'il aura été un grand bâtisseur. Sans remuer un doigt, il aura été un grand aventurier. Ni but, ni buté. Il faut savoir dévaler. C'est le jeu de la pierre qui roule. Il ouvre la fenêtre. Un instant après, il revient de plusieurs heures de vol. Tel est le temps pour lui. Telle est sa vie, l'insoumis. Je vous écris d'un pays lointain. Nous n'avons ici, dit-elle, qu'un soleil par mois, et pour peu de temps. On se frotte les yeux des jours à l'avance, mais en vain, temps inexorable, soleil n'arrive qu'à son heure. Ensuite, on a un monde de choses à faire, tant qu'il y a de la clarté, si bien qu'on a à peine le temps de se regarder un peu. La contrariété pour nous dans la nuit, c'est quand il faut travailler, et il le faut. Il naît des nains continuellement. Quand on marche dans la campagne, lui confie-t-elle encore, il arrive que l'on rencontre sur son chemin des masses considérables. Ce sont des montagnes. Et il faut tôt ou tard se mettre à plier les genoux. Rien ne sert de résister, on ne pourrait plus avancer, même en se faisant du mal. Ce n'est pas pour blesser que je le dis. Je pourrais dire d'autres choses si je voulais vraiment blesser. L'aurore est grise ici, lui dit-elle encore. Il n'en fut pas toujours ainsi, tu sais. Nous ne savons qui accuser. Dans la nuit, le bétail pousse de grands mugissements, longs et flûtés pour finir. On a de la compassion, mais que faire? L'odeur des eucalyptus nous entoure, bienfait, sérénité, mais elle ne peut préserver de tout. Ou bien, pensez-vous qu'elle puisse réellement préserver de tout? Je vous écris d'un lointain pays. Je vous ajoute encore un mot, une question plutôt. Est-ce que l'eau coule aussi dans votre pays? Je ne me souviens pas si vous me l'avez dit, et elle me donne aussi des frissons, si c'est bien elle. Est-ce que je l'aime ? Je ne sais. On se sent si seul dedans quand elle est froide. C'est tout autre chose quand elle est chaude. Alors comment juger ? Comment jugez-vous autres, dites-moi ? Comment vous parlez d'elle sans déguisement, à cœur ouvert ? Je vous écris du bout du monde. Il faut que vous le sachiez. Souvent les arbres tremblent, on recueille les feuilles. Elles ont un nombre fou de nervures. Mais à quoi bon ? Plus rien entre elles et l'arbre, et nous nous dispersons, gênés. Est-ce que la vie sur Terre ne pourrait pas se poursuivre sans vent ? Ou faut-il que tout tremble, toujours, toujours, incessamment ? Il y a aussi des remuements souterrains, dans la maison, comme des colères qui viendraient au-devant de vous, comme des êtres sévères qui voudraient arracher des confessions. On ne voit rien, que ce qu'il importe si peu de voir, rien et cependant on tremble. Pourquoi ? Comment jugez-vous les autres ? Dites-moi. Quand vous parlez des autres sans déguisement, à cœur ouvert, comment viviez-vous ? Je vous écris d'un pays lointain. Je vous écris d'un pays lointain.
Vea, vea, che le vie tutti. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Vea, vea, neanche questo tempo grigio, pieno di musica. E gli uomini che ti son piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. I'd remove you. Chips, chips. Da-ti-do-di-doo, chi-boom, chi-boom-boom. Da-ti-do-di-doo, chi-boom, chi-boom-boom. Da-ti-do-di-doo. Via, via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via, via, non perderti per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte varia di uno innamorato di te. Yeah. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. I dream of you, chips, chips, chips. Da-ti-do-di-doo, chi-boom, chi-boom-boom. Da-ti-do-di-doo. Via, via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via, via, entra e fatti un bagno caldo. C'è un accappatoio azzurro, fuori piove un mondo freddo. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful. It's wonderful, it's wonderful. I dream of you, chips, chips. Da-ti-do-di-doo, chi-boom, chi-boom-boom. Da-ti-do-di-doo, chi-boom, chi-boom-boom. Da-ti-do-di-doo.
Thank you. Née en 1870, Rosa Luxembourg fut incarcérée en 1915 et en 1916 pour avoir appelé les prolétaires allemands et français à ne pas participer à ce qui allait être une grande boucherie. Voici ses lettres devenues célèbres qu'elle envoya de prison à son amie Sophie Liebknecht, la seconde épouse de Karl Liebknecht, qui avait fondé avec elle en 1915 la Ligue Spartakiste. Vronk, le 19 avril 1917. Hier, c'est avec joie que j'ai reçu votre carte, bien que le ton en soit triste. Comme je souhaiterais être auprès de vous maintenant pour vous faire rire comme naguère après l'arrestation de Karl, vous vous souvenez ? Au café Fürstenhof, nous avons attiré l'attention par nos éclats de rire intempestifs. Que de bons moments nous avons passés malgré tout. Tous les jours, nous partions de bonne heure à la recherche d'une automobile, Potsdamer Platz, puis nous nous faisions conduire à la prison à travers le Tigarten en fleurs par la rue Lerter, bien tranquille avec ses grands ormes. Puis, au retour, nous faisions régulièrement halte au Fürstenhof et régulièrement vous veniez chez moi à Soudend, où le mois de mai éclatait dans toute sa splendeur. Nous passions des heures agréables dans la cuisine où Mimi et vous-même attendiez patiemment devant la petite table à la nappe blanche les résultats de mon art culinaire. Vous rappelez-vous les bons haricots verts à la parisienne ? Et j'ai gardé le souvenir très vif d'un beau temps immuable, ensoleillé et chaud. C'est seulement par des journées semblables que l'on éprouve toute la joie du printemps. Puis, je ne manquais jamais de vous rendre visite le soir dans votre petite chambre. J'aime tant vous voir, lorsqu'avec votre silhouette de jeune fille, vous vous tenez près de la table et servez le thé. Enfin, à minuit, nous nous reconduisions à tour de rôle par les rues obscures qui embaumaient. Souvenez-vous de cette nuit merveilleuse à Soudend, quand je vous ai raccompagné chez vous. Les pignons qui détachaient leurs contours nets et noirs sur le ciel bleu et délicat donnaient aux maisons des allures de château fort. Sonjusha, je voudrais être toujours auprès de vous, pour vous distraire, bavarder ou me taire avec vous, pour vous éviter de retomber dans vos tristes pensées, votre désespoir. Dans votre carte, vous posez cette question, pourquoi faut-il qu'il en soit ainsi ? Enfant que vous êtes, la vie est ainsi depuis toujours. Elle est tout à la fois souffrance, séparation, nostalgie. Il faut la prendre telle qu'elle est et se dire que tout est bien ainsi. C'est du moins ce que je fais. Non par une sagesse qui serait le fruit de la méditation, mais simplement par nature. Je sens comme par instinct que c'est la seule façon de prendre la vie, et je suis réellement heureuse, quelles que soient les circonstances. De ma vie présente et passée, je ne retrancherai rien, je ne changerai rien. Si seulement je pouvais vous amener à voir la vie de la même manière. Je vous souhaite beaucoup de soleil et de chaleur. Il n'y a encore que des bourgeons ici. Et hier, il est tombé du grésil. Je me demande où en est mon midi du Soudend. L'année dernière, nous sommes restés un moment devant la grille. Vous admiriez l'exubérance de la végétation. Ne vous donnez pas le souci d'écrire des lettres. Moi, je vous écrirai longuement. Mais il me suffit que vous m'envoyiez un petit mot sur une carte postale. Sortez le plus possible. Faites beaucoup de botanique. Avez-vous emporté ma petite Flore ? Gardez confiance, cher ami, tout ira bien, vous verrez. Je vous embrasse affectueusement, votre amie fidèle, Rosa.
En lisant ta lettre, je m'aperçois que l'orthographe et toi, ça fait deux.
C'est toi que j'aime,
ne prends qu'un aime,
par-dessus tout. Ne me dis point,
il en manque un,
que tu t'en fous. Je t'en supplie,
point sur lui,
fais-moi confiance. Je suis l'esclave,
sans accent grave,
des apparences. C'est ridicule,
c'est majuscule,
c'était si bien. Tout ça m'affecte,
ça c'est correct,
au plus haut point. Si tu renonces, comme ça se prononce, à m'écouter, avec la vie,
comme ça s'écrit,
j'en finirai. Pour me garder,
ne prends qu'un dé,
tant de rancune. T'as pas de cœur, y a pas d'erreur.
Là, y en a une.
J'en mourirai, n'est pas français. Ne comprends-tu pas? Ça sera ta faute, ça sera ta faute.
Là, y en a pas.
Moi, je te signale que Gardénal ne prend pas deux, mais n'en prend qu'un, caché au moins, n'en prend pas deux. Ça te calmera et tu verras, tour ton ballot. Le cafard, les pleurs, les peines de cœur, au E dans l'eau.
Vronk, le 2 mai 1917. En avril dernier, si vous vous souvenez, je vous ai appelé tous les deux au téléphone et vous ai demandé de venir avec moi à 10h au jardin botanique entendre le rossignol qui donnait un véritable concert. Cachés par des pétaillis, nous nous sommes assis sur les pierres près d'un filet d'eau. Après le chant du rossignol, nous avons entendu tout à coup un appel plaintif sur une note, quelque chose comme glic. J'ai pensé alors au cri d'un oiseau des marais, d'un oiseau aquatique. Et Karl était du même avis, mais nous n'avons pu savoir exactement. Eh bien, imaginez-vous qu'un beau matin, il y a quelques jours de cela, j'ai entendu ici même le cri plaintif qui venait du voisinage. Le cœur battant d'impatience, j'ai voulu savoir quel était cet oiseau. Je n'ai eu de cesse jusqu'à ce que j'ai trouvé. Et j'apprends aujourd'hui qu'il ne s'agit pas d'un oiseau des marais, mais du torcol, qui est une sorte de pic. Il n'est guère plus gros qu'un moineau et son nom lui vient de ce qu'il essaie d'effrayer l'ennemi par des attitudes comiques et par des contorsions de la tête lorsqu'il est en danger. Il ne se nourrit que de fourmis qu'il attrape avec sa langue collante, à la manière du fourmilier. C'est pourquoi les Espagnols l'appellent hormiguero, l'oiseau fourmilier. D'ailleurs, Moric a consacré à cet oiseau un charmant poème humoristique qui a été mis en musique par Hugo Wolf. Je suis aussi heureuse que si j'avais reçu un cadeau depuis que je connais le nom de l'oiseau à la voix plaintive. Vous pourriez l'écrire à Karl, ça lui fera plaisir. Ce que je lis, surtout des ouvrages de sciences naturelles, botanique et zoologie. Hier, par exemple, j'ai appris pourquoi les oiseaux chanteurs disparaissent d'Allemagne. Cela est dû à l'extension de la culture rationnelle, sylviculture, horticulture, agriculture, qui détruit peu à peu les endroits où ils nichent et se nourrissent. Arbres, creux, terres en friche, broussailles, feuilles fanées qui jonchent le sol. J'ai lu cela avec beaucoup de tristesse. Je n'ai pas tellement pensé au chant des oiseaux et à ce qu'ils représentent pour les hommes, mais je n'ai pu retenir mes larmes à l'idée d'une disparition silencieuse, irrémédiable, de ces petites créatures sans défense. Je me suis souvenu d'un livre russe du professeur Sieber sur la disparition des peaux rouges en Amérique du Nord que j'ai lu à Zurich. Eux aussi sont peu à peu chassés de leur territoire par l'homme civilisé et sont condamnés à une mort silencieuse et cruelle. Mais il faut que je sois malade pour que tout me bouleverse à ce point. Savez-vous que j'ai souvent l'impression de ne pas être vraiment un être humain, mais un oiseau ou un autre animal qui a pris forme humaine ? Au fond, je me sens beaucoup plus chez moi dans un bout de jardin comme ici, ou à la campagne couchée dans l'herbe au milieu des bourdons, que dans un congrès du parti. À vous, je peux bien le dire, vous n'allez pas me soupçonner aussitôt de trahir le socialisme. Vous le savez, j'espère mourir malgré tout à mon poste, dans un combat de rue ou un pénitencier. Mais en mon fort intérieur, je suis plus près de mes maisons charbonnières que des camarades. Ce n'est pas que je trouve dans la nature un repos, un refuge, comme tant d'hommes politiques qui ont intérieurement fait faillite. Au contraire, la nature m'offre elle aussi à chaque pas des spectacles si cruels qu'ils me causent de vives souffrances. Je vous raconterai par exemple une petite aventure dont le souvenir me poursuit. Au printemps dernier, je revenais d'une promenade à la campagne et je suivais la rue tranquille et déserte. Quand mon attention fut attirée par une petite tache sombre sur le sol. je me penchai et fus témoin d'un drame silencieux. Un gros scarabée gisait sur le dos et essayait vainement de se défendre contre une horde de minuscules fourmis qui se pressaient autour de lui et le dévoraient vivant. Frémissant d'horreur, je pris mon mouchoir et commençai à chasser ces monstres, mais les fourmis étaient si acharnées et si tenaces que je dus leur livrer un long combat. Quand j'eus enfin libéré la pauvre victime et l'eus posée sur l'herbe, je m'aperçus que deux de ses pattes étaient déjà mangées. Je m'en fus, avec le sentiment pénible que je lui avais rendu un service fort contestable. Nous avons déjà de longs crépuscules. D'ordinaire, j'aime beaucoup ces heures de la journée. À Soudund, j'avais une quantité de merles. Ici, ils ne se montrent pas et se taisent pour le moment. Pendant tout l'hiver, j'ai nourri un couple, mais il est parti. Habituellement, à Soudund, je passais mes soirées à flâner dans la rue. C'est un si beau spectacle, lorsque les flammes roses du gaz, qui semblent intimidées par les dernières lueurs violettes du jour, tremblent soudain derrière la vitre des réverbères. Dans la rue glisse la silhouette d'une concierge qui se hâte de rentrer chez elle ou d'une bonne qui court acheter quelque chose chez le boulanger ou l'épicier. Les enfants du cordonnier, qui sont mes amis, continuaient à jouer dehors malgré l'obscurité, jusqu'au moment où une voix énergique les appelait de l'angle de la rue. À cette heure, il y avait toujours un merle qui ne pouvait trouver le repos et qui soudain jetait des gris perçants ou pavardait comme un enfant mal élevé et volait bruyamment d'arbre en arbre. Et je restais au milieu de la rue, à compter les premières étoiles. Je n'avais pas envie de rentrer, de quitter cette douce atmosphère de crépuscule dans laquelle le jour et la nuit se fondaient lentement. Sanjusha, je ne tarderai pas à vous écrire de nouveau. Gardez confiance, tout ira bien, pour Karl aussi. Au revoir, jusqu'à la prochaine lettre. Je vous embrasse, votre Rosa.
Can't look at the rocket launch, the trophy wives of the astronauts, and I won't listen to their words, 'cause I like birds. If you're small and on a search, I've got a feeder for you to perch on. I can't stand in line at the store. The mean little people are such a bore. But it's all right if you act like a turd, 'cause I like birds.
Vronk, le 20 juillet 1917. Sonichka, ma chère amie, Puisqu'on me laisse dépérir dans cette prison plus longtemps que je ne pensais, vous recevrez encore une lettre de Vronk. Comment pouviez-vous croire que je ne vous écrirai plus ? Les sentiments que j'éprouve à votre égard n'ont pas changé et ne changeront pas. Je n'ai pas écrit parce que je connaissais tous les soucis contre lesquels vous vous débattez depuis votre départ d'Ebenhausen, et aussi parce que je n'étais pas pour le moment d'humeur à vous écrire. Vous savez probablement qu'on me transfère à Breslau. Ce matin, j'ai dit adieu à mon petit jardin. Le temps est gris et pluvieux. L'orage menace. Dans le ciel courent des lambeaux de nuages, mais j'ai bien profité de ma promenade habituelle. J'ai fait mes adieux à l'étroit chemin pavé qui longe le mur. Depuis près de 9 mois, je l'ai parcouru si souvent que j'en connais la moindre pierre, la moindre herbe qui pousse entre les pavés. Ce qui m'attire dans les pierres, c'est la diversité de leurs couleurs, des rouges, des bleus, des verts, des gris. Pendant le long hiver, mes yeux, qui ne pouvaient se poser sur un coin de verdure, cherchaient avidement dans la couleur des pierres un peu de variété et de réconfort. Maintenant que l'été est venu, il y a tant de choses curieuses et intéressantes à voir entre les pierres. Une foule d'abeilles sauvages et de guêpes y ont fait leur nid. Elles creusent entre les pierres des trous ronds, de la grosseur d'une noisette, qui donnent accès à de profondes galeries. De la terre qu'elles rejettent à la surface, elles font de très jolis petits tas, où elles déposent leurs œufs et produisent la cire et le miel sauvage. Elles ne cessent d'entrer et de sortir. Pendant mes promenades, j'ai dû veiller à ne pas écraser leur demeure souterraine. Puis il y a le va-et-vient continuel des fourmis qui traversent le chemin en plusieurs colonnes, suivant très exactement la ligne droite. Comme si elle connaissait d'instinct les lois de la géométrie et savait que la ligne droite est le plus court chemin qui va d'un point à un autre. Des herbes poussent à profusion le long du mur. Les unes sont déjà fanées et répandent leurs flocons. Les autres continuent à bourgeonner inlassablement. Il y a aussi toute une génération d'arbrisseaux que j'ai vu croître au milieu du chemin ou contre le mur durant le printemps. Un petit acacia, certainement issu d'une graine tombée du vieil arbre. Plusieurs peupliers blancs, venus au monde depuis le mois de mai. Les peupliers ont déjà revêtu leur riche parure de feuilles vertes et blanches, qu'ils balancent avec infiniment de grâce dans la bourrasque, tout comme leurs aînés. Que de fois j'ai suivi le chemin entre ces arbres, que de sensations j'y ai éprouvées, que de pensées m'y sont venues. Au plus fort de l'hiver, je m'y suis souvent frayé un passage après une chute de neige. J'étais alors accompagnée de ma chère petite maison charbonnière que j'espérais revoir à l'automne, mais qui ne me retrouvera plus quand elle reviendra chercher sa nourriture sur ma fenêtre à l'endroit habituel. En mars, pendant les quelques jours de dégel qui ont suivi un froid très vif, mon chemin s'est transformé en ruisseau. Je me souviens que le vent tiède ridait la surface de l'eau où les reflets luisants des pierres de la muraille dansaient sur de petites vagues. Puis est venu le mois de mai, et je vous ai envoyé la première violette qui a fleuri contre le mur. Tandis que je me promenais aujourd'hui, observant et méditant, ces vers de Goethe chantaient dans ma mémoire. Merlin, le vieux dans la lumière de sa tombe, où je lui parlais au temps de mon adolescence. Vous connaissez la suite du poème. Bien entendu, ces vers n'avaient aucun rapport avec mon humeur et mes préoccupations du moment, mais je me laissais bercer par la musique des mots et par le charme étrange du poème. Je ne sais pourquoi, mais les beaux poèmes, surtout ceux de Goethe, me touchent profondément dès que ma sensibilité est en émoi. C'est presque une réaction physiologique. Il me semble qu'une boisson délicieuse vient étancher ma soif, me rafraîchir, me rend la santé du corps et de l'esprit. Il y a un autre poème que je souhaiterais avoir depuis longtemps, car il ne figure pas dans le petit recueil que je possède. Il s'agit de l'hommage d'un bouquet. C'est un tout petit poème de 4 à 6 vers. J'ai cueilli ce bouquet avec infiniment de mélancolie. Je l'ai pressé contre mon cœur plus de 1000 fois. Cette musique exprime un sentiment religieux, une délicatesse, une pudeur, comme un agenouillement dans une prière muette. Mais je ne me souviens plus très bien du texte et je voudrais le retrouver. Hier soir, vers 9 heures, j'ai assisté de nouveau à un merveilleux spectacle. Du canapé où j'étais assise, j'ai remarqué un reflet rose qui éclairait la vitre de la fenêtre. Cela m'a étonnée car le ciel était tout gris. J'ai couru vers la fenêtre et je suis restée sous le charme. À l'est, sur le gris uniforme du ciel, se détachait un immense nuage d'une belle teinte rose, tellement irréelle que l'on aurait dit un sourire. un salut venant d'horizons inconnus. J'ai éprouvé comme une libération, et sans le vouloir, j'ai tendu mes deux mains vers cette apparition magique. N'est-ce pas que la vie est belle, et vaut la peine d'être vécue, quand elle nous offre de telles couleurs et de telles formes ? Je ne pouvais détacher mon regard de cette vision lumineuse et me laisser pénétrer par son rayonnement. Lorsque tout à coup j'ai ri de mon attitude, mon Dieu, le ciel, les nuages, la beauté du monde ne resteront pas à Vronk. Je n'ai pas à leur dire adieu, non, ils m'accompagnent où que j'aille, aussi longtemps que je vivrai. Bientôt, je vous écrirai de Breslau, venez me voir là-bas dès que vous le pourrez. Toutes mes amitiés à Karl, je vous embrasse. Au revoir dans ma 9e prison. Votre amie fidèle, Rosa. Breslau, mi-décembre 1917. Cela fait un an que Karl est emprisonné à Lucao. J'y ai souvent pensé ce mois-ci. Il y a un an exactement, vous m'avez rendu visite à Vronk et vous m'avez donné un bel arbre de Noël. Cette année, je m'en suis procuré un ici, mais il a piètre allure et il lui manque des branches. Aucune comparaison avec celui de l'année dernière. Je ne sais comment je ferai pour y fixer les 8 petites bougies que j'ai achetées. C'est mon 3e Noël sous les verrous. Mais ne prenez pas cela au tragique. Je suis calme, comme toujours. Hier, je suis restée longtemps éveillée. Je ne peux pas dormir avant 1h du matin, mais il faut que j'aille au lit à 10h. Alors je me laisse aller à toutes sortes de rêveries dans l'obscurité. Hier, je me disais, n'est-il pas singulier que je sois constamment transportée de joie, sans raison ? Me voici couchée dans une cellule obscure, sur un matelas dur comme la pierre. Autour de moi, la prison est plongée dans un silence de mort. On se croirait au fond d'un sépulcre. Le reflet de la lanterne qui brûle toute la nuit devant la prison entre par la fenêtre et danse au plafond. De temps à autre, on entend au loin le roulement étouffé d'un train, ou bien tout près, sous la fenêtre, l'atout et le palan de la sentinelle qui se dégourdit les jambes en traînant ses lourdes bottes. Le bruit du sable qui crisse désespérément sous ses pas semble évoquer dans la nuit noire et humide toute la désolation d'une vie sans issue. Je suis étendue là, seule, livrée à l'obscurité, à l'ennui, à l'hiver, Et malgré tout, une joie étrange, inconcevable, fait battre mon cœur comme si je marchais dans une prairie en fleurs sous un soleil éclatant. Au milieu des ténèbres, je souris à la vie comme si je connaissais la formule magique qui change le mal et la tristesse en clarté et en bonheur. Alors je cherche une raison à cette joie, je n'en trouve pas et ne puis m'empêcher de sourire de moi-même. Je crois que la vie elle-même est l'unique secret, car l'obscurité profonde est belle et douce comme du velours quand on sait l'observer. Et la vie chante aussi dans le sable qui crie sous les pas lents et lourds de la sentinelle quand on sait l'entendre. À ces moments-là, je pense à vous. J'aimerais tant vous envoyer cette clé magique qui vous donnerait accès à la beauté et à la joie en toutes circonstances, qui vous permettrait de vivre vous aussi dans un enchantement, comme si vous vous promeniez dans une prairie aux riches couleurs. Je ne prétends pas vous conseiller l'ascétisme, vous proposer des joies imaginaires. Je vous souhaite toutes les joies réelles, tangibles. Mais je voudrais simplement vous communiquer un peu de mon inépuisable bonheur. Ainsi, je ne m'inquiéterai plus à votre sujet et vous traverseriez la vie sous un manteau brodé d'étoiles qui vous protégerait contre toutes les mesquineries, contre la banalité et contre l'angoisse. Vous avez cueilli dans le parc de Stieglitz un beau bouquet de baies et violettes. Pour les baies il doit s'agir de sureaux, soit, ce qui est plus vraisemblable, de troènes. Les baies de cet arbuste sont disposées en panicules verticaux très décoratifs, entre des feuilles vertes longues et minces. Les baies violettes, qui se cachent sous de petites feuilles, pourraient être du néflier nain. Il est vrai qu'elles sont rouges, mais lorsque la saison avance, qu'elles sont très mûres et commencent à pourrir, elles prennent souvent des tons d'un rouge violacé. Les feuilles ressemblent à celles du myrte. Elles sont petites, pointues, d'un vert foncé, et le dessus a la consistance du cuir, alors que le dessous est rugueux. Ah, Sonichka, j'ai éprouvé ici une cruelle douleur. Dans la cour où je me promène, entrent souvent des voitures de l'armée sur lesquelles s'entassent des sacs, des vieilles vestes et des chemises de soldats qui sont parfois tachées de sang. Le contenu des voitures est déchargé ici, réparti dans les cellules où on ravaude les sacs et les vêtements avant de les charger à nouveau et de les livrer à l'armée. L'autre jour, j'ai assisté à l'arrivée d'une de ces voitures qui était tirée par des buffles et non par des chevaux. C'était la première fois que je voyais ces animaux de près. Ils sont plus puissants et de plus grande stature que nos bœufs. Ils ont la tête plate et les cornes très évasées, de sorte que leur crâne ressemble à celui de nos moutons. Ils ont la tête noire et de grands yeux doux. Les buffles viennent de Roumanie et ce sont des trophées de guerre. Les soldats qui les conduisent racontent qu'il est très difficile de capturer ces animaux qui vivent à l'état sauvage et plus difficile encore de les dresser à tirer des fardeaux car ils sont habitués à la liberté. Il doit bien y avoir une centaine de ces animaux rien qu'à Breslau. Ils ne reçoivent qu'une maigre provende, eux qui étaient accoutumés à paître dans les riches prairies roumaines. Comme on les utilise à tirer toutes sortes de fardeaux, ils ne tardent pas à mourir à la tâche. Il y a quelques jours, j'ai vu entrer une voiture pleine de sacs, si chargée que les buffles n'arrivaient pas à franchir les dalles du porche. Le soldat qui les accompagnait s'est mis à les frapper si brutalement avec le manche de son fouet que la surveillante indignée lui a demandé s'il n'avait pas pitié de ces pauvres bêtes. « Personne n'a pitié de nous autres hommes », a-t-il répondu avec un sourire mauvais. Et il a redoublé de coups. Les animaux ont enfin réussi à franchir le seuil, mais l'un d'eux était en sang. Sonichka, malgré l'épaisseur et la résistance proverbiale de la peau du buffle, celle-ci a fini par se déchirer. Pendant qu'on déchargeait la voiture, les bêtes restaient là, épuisées, et celle qui saignait regardait devant elle. Son front noir et ses 12 yeux avaient l'expression d'un enfant qui a versé d'abondantes larmes. C'était tout à fait l'expression d'un gamin qui a été sévèrement puni, sans savoir pourquoi, sans savoir comment il pourrait échapper à la souffrance. J'étais devant le malheureux buffle qui me regardait et je me suis mise à pleurer. C'était ses larmes qui coulaient. Impuissante, je frémissais devant cette douleur muette, comme s'il s'était agi de mon frère le plus cher. Quelles sont loin les prairies vertes et délicieuses de Roumanie, où le buffle paissait en toute liberté. Il ne les reverra jamais. Là-bas, tout était différent. Le soleil brillait, le vent soufflait, les oiseaux chantaient. Ici, rien qu'une horrible ville étrangère, une étable étouffante, du foin moisi écœurant, mêlé de paille pourrie, des hommes inconnus, redoutables, et des coups, du sang qui coule, et des blessures ouvertes. Mon pauvre buffle, mon pauvre bien-aimé, nous restons tous les deux impuissants et muets, unis dans la douleur, la misère, les regrets. Pendant ce temps, les prisonniers s'agitaient autour de la voiture, déchargeaient les sacs pesants et les traînaient dans la prison, alors que le soldat, les mains dans ses poches, arpentait la cour, souriait et sifflotait un air à la mode. C'était la guerre, dans toute sa gloire, qui passait devant moi. Écrivez-moi vite, je vous embrasse, Sonichka, votre Rosa. Ma chère Sonjusha, gardez confiance malgré tout. La vie est ainsi. Il faut la prendre avec un courage inébranlable. Et avec le sourire, quoi qu'il arrive.
S'ouvre, une lampe se dévoile, un éclair silencieux m'éblouit, tout ça s'éclaire, je rencontre une créature que je n'ai pas voulu, dont les contours me sont inconnus. Voici le surveillant, fardé d'un déguisement bleu nuit, pour mieux se fondre dans ma cellule. Son faisceau lumineux inonde ma couche. Preuve que je suis là, j'esquisse un sourire, un salut de la main. En réponse, le noir reprend son cours. Mes rêves s'abandonnent. Mon désert mural se peuple d'enfance, de soleil, de chevelures blondes et de plantes grimpantes irisées. Je ne veux pas les lâcher. Le réveil est brutal. La fenêtre en face est un orifice fermé et grillagé. La lumière de la vie s'est exilée ailleurs, exaltée des visages, flirtée avec la neige, ressuscitée les âmes perdues et chamarrée les créatures féminines fantasmées. Dans cet orage de détresse où ténèbres abyssales et murailles d'insomnie nourrissent mon existence en jachère, tel un sage ivre d'Éden, ombre et solitude harmonieusement se côtoient. C'est alors que je me retourne vers moi. Séjourner. Il y a la porte œilletonnée, la serrure qui geint à perpétuité d'être forcée uniquement le jour, et piaffe la nuit d'un abandon ouvertement assumé. L'uniformité vit dans cette vie de l'exceptionnel, l'ennui sans objet et sans but. Des fenêtres grillagées, pareilles à celles encadrant les chambres d'hôpitaux spécialisés. Un trio de couleurs écaillées, recouvertes de graffitis, de détresse, d'appel à la vie. Des promenades avec allées, mais toujours soumises au même retour en cellule. Le temps égrené des jours, mois et années. La non-remise de ma peine enfouie et douloureuse. Un langage ésotérique où gamelle, cantine, co-détenue, remplace repas, supermarché et compagnons. Et puis, tous ces êtres décharnés, peu enclins au remords, et dans le confort du déni. Pourtant, voyez-vous, il y a peu, je me suis évadé de votre maison. Je me suis glissé dans le lit d'un grand bol de sommeil noir que j'ai bu jusqu'à la dernière goutte. Bach et Adri. À l'ombre d'un seul glock repose mon corps fatigué. L'ennui se décline sans objet. La mélancolie, sœur complice, m'apaise. J'ai franchi la frontière de l'insoupçonnable en décomposant des portées de silence d'une mélodie lancinante et sourde à l'endroit de ce lieu anxiogène. Au soleil, près d'un potentiel rouge, Icare, désorienté par des ailes roussies, la peur de la récidive s'installe, brûler la vie, additionner des soustractions. Mais mon cerveau, tel un cachot privilégié, emprisonne néanmoins des images de lumière, d'arc-en-ciel d'espoir, de résistance et de liberté. Par miracle, à la sortie, ma vie recommencera. Oubliez ce versant de ténèbres, place à ce verset de couleurs. Vous avez dit Hubeck, vous avez dit Adré. Parole, écris-moi, toi, que je ne connais pas. Écris-moi, aujourd'hui ou demain. Pour moi, le temps est sans lendemain. Écris-moi, du ciel maussade, du vent froid. Écris-moi que les terrasses sont désertes, les badauds tristes et les boutiques fermées. Écris-moi que tous les chats sont noirs, les piafs muets et la mer démontée. Écris-moi que ta dulcinée s'est cassée en ton absence avec un étranger. Écris-moi que tes économies se sont envolées, ta maison tsunamisée par un promoteur suspect, ton cancer du poumon métastasé. Écris-moi, même anonymement, je ne te répondrai pas. Écris-moi, pour la dernière fois, je compatirai à ton désarroi, à tous ces maux et turpitudes d'ici-bas. Car, vois-tu, à ma sortie, je revivrai pareil à toi, cette existence que l'on prétend être la vie.
Too good to me. How can I get along now? So close she stood.
Songe et mystère. Dans ce lit de l'éphémère, j'ai laissé ta main languir mes reins. Tes seins découverts et galbés, tels des volcans endormis, réveillés mon imaginaire. Tu as posé silencieuse ta tête sur mes genoux. Tu étais désormais l'âme de cette montagne aux courbes profondes, aux roches tues derrière des lèvres d'argile. Les ailes de ton nez frémissaient. Ta bouche, un bouquet de brume, s'amarrer avec volupté à ce quai si longtemps déserté. Ton corps, une rose privilégiée, une rose de rosée, pareil à l'ivresse d'avoir soif. Ta candeur, ta chaleur, pudeur, placer en toi toutes les espérances. Pourtant, vide de cœur ou désir, fuyant, je t'ai enfermé dans l'impossible. Les gens qui sont dans vos rêves la nuit, il faudrait pouvoir les rappeler le lendemain, matin, au réveil. La vie serait plus simple.
Dans cette émission des mots d'ici, des mots d'ailleurs, vous avez entendu ce soir la voix de Nathalie Vautier et les magnifiques textes écrits et lus par Roger Saramito. Vous avez entendu des textes de Henri Michaud, Lointains intérieurs, de Rosa Luxembourg, Les lettres de prison, et puis vous avez entendu aussi Keith Jarrett, Art Pepper, Chet Baker, Serge Gainsbourg, The Hills, The Ramones, Iggy Pop, Eric Satie, Nick Cave et la musique originale du film La femme de Gilles. On se retrouve fin octobre. Cette émission a été exceptionnellement déplacée pour cause des correspondances de Manosque. Donc nous avons fait une émission déplacée que nous avons fait aujourd'hui. Et on se retrouve donc fin octobre, le dernier jeudi d'octobre. Pour vous dire au revoir, je vais laisser le micro à Roger Saramito qui faisait sa première émission de texte lu, écrit par lui et lu par lui. Bonsoir Roger, merci beaucoup.
C'est à Fréquence Mistral que je remercie de m'avoir ouvert l'antenne. Et puis je finirai par une phrase de Jacques Prévert. Il faudrait essayer d'être heureux, ne serait-ce que pour donner l'exemple.
Bonsoir, merci.
Et n'oubliez pas, vous avez toujours le choix de garder les yeux ouverts ou de rester les volets fermés.